Pourquoi ce dispositif dans la Halle d'Ardée un samedi 5 avril ?
Puisque nous attendons un peu plus de 150 personnes pour la rencontre avec Edoui Plenel.
D'accord, donc il est invité par la librairie 1.1 trait.
Voilà, il est invité par la librairie et puis aussi par le cinéma en fin de journée. Donc c'est vraiment un moment important pour la journée.
Et pourquoi vous avez choisi de l'inviter pour son nouvel ouvrage Palestine, notre blessure, publié aux éditions La Découverte ?
Pas que sur celui-ci, puisque il est journaliste, politique, et puis le contexte actuel fait qu'il est important, je pense, d'apporter différents points de vue, et puis au sujet de toute l'actualité qui couvre de la Palestine, mais aussi sur le thème de l'extrême droite, sur la liberté de la presse, sur différents thèmes dont il a abordé dans ses derniers ouvrages.
Edoui Plenel, bonjour.
Bonjour.
Que faites-vous un samedi 5 avril à l'Odève dans l'Hérault ?
Je fais ce que je fais presque chaque semaine. Je me promène pour rencontrer des lecteurs de Mediapart, des lecteurs de mes livres, des citoyennes et des citoyens, pour qu'ensemble, on essaye d'y voir clair, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser prendre comme des lapins dans les phares par une situation qui est alarmante à l'échelle du monde, entre Trump, Poutine, Netanyahou et bien d'autres, et puis évidemment en France aussi. Et donc voilà, c'est ce que j'aime faire depuis que je ne suis plus en responsabilité comme président ou directeur de Mediapart. Bien, je fais ça, j'allais dire, oui, presque toutes les semaines. Et puis, c'est un territoire qui m'est cher. J'ai un petit pied à Pézenas, donc je ne suis pas loin.
Donc Pézenas, où vous étiez ce matin pour une rencontre dans une autre librairie, c'est ça ?
Oui, bah, c'était le marché. J'ai fait le marché de Pézenas. Et puis, parfois, je fais aussi des débats. Mais en fait, j'ai un lien affectif. J'ai un ami qui n'est plus de ce monde, qui venait tous les débuts d'été à Pézenas. Et du coup, j'ai inventé une maison de famille dans la campagne.
Et vous êtes ici également pour, enfin surtout, entre autres, pour la publication d'un livre aux éditions La Découverte, donc qui est sorti au mois de mars et qui est un recueil de vos articles publiés sur Mediapart de 2009 à décembre 2024, si je ne me trompe pas, sur ce qu'on appelle communément le conflit israélo-palestinien. Et que vous avez choisi de titrer, enfin vous ou votre éditeur, je ne sais pas, Palestine, notre blessure. Pourquoi ce choix de ce pronom possessif ?
Oui, ce livre rassemble à la fois ces 11 gros articles que j'ai fait depuis 2009, comme vous l'avez dit, avec une introduction inédite qui s'appelle « Une cause universelle ». Quant au titre, c'est tout de suite expliqué dès les premières lignes, il est emprunté à Arundhati Roy, une écrivaine, le dieu des petits riens, un roman très célèbre et une activiste indienne, un peu on dirait altermondialiste, internationaliste, et c'est elle qui, recevant un prix en Grande-Bretagne, un an après les massacres du 7 octobre 2023, a parlé de la Palestine comme une blessure commune. La blessure qui renvoie à notre indifférence, à ce qu'incarne pour moi ce que j'appelle la question de Palestine. Je pense qu'au-delà de la diversité de la société palestinienne, de ses tensions politiques, la Palestine ne se réduit pas au Hamas et il y a toutes sortes de diversités, de débats. Il n'y a pas que ce qu'on nous serine quotidiennement. Et il y a une société civile, comme il y a une société civile en Israël qui ne se réduit pas aux dirigeants d'extrême droite israéliens. Et donc la question de Palestine, pour moi, elle pose à l'échelle du monde une question qui est aujourd'hui en péril. C'est ce qu'incarne pour moi l'alliance de ce capitalisme mafieux qu'incarnent Poutine, Trump et tous leurs alliés, qui est la question de l'égalité. Nous sommes dans tous nos combats, aussi bien le combat pour les droits sociaux, le combat pour les droits des femmes, le combat pour les droits des opprimés, pour le droit des peuples à s'autodéterminer et plein d'autres combats. Nous sommes les enfants d'une promesse incroyable qui est celle de l'égalité naturelle. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence. Et en fait, nous nous sommes rendus compte, après la catastrophe des deux guerres mondiales, et surtout de la deuxième, ces montagnes de cadavres, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, la destruction des Juifs d'Europe, que notre délire européen de grandeur, qui a inventé l'Occident par la projection de l'Europe sur le monde, de prétention à la supériorité, justement à l'inégalité, à l'idée qu'il y a des civilisations, des origines, des croyances, des religions qui sont supérieures à d'autres, eh bien ça produit des catastrophes. Au bout du délire colonialiste, du délire impérialiste, il y a Hitler, comme le disait Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Alors du coup, on s'est réveillé, on a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme, fin 1948, on a dit qu'il fallait des Nations unies, on a dit qu'il fallait un droit international. Mais en même temps qu'on faisait ça, on a laissé comme un caillou dans la chaussure, on a projeté sur les épaules d'un peuple qui n'en était aucunement responsable, notre propre crime, en commettant une faute à l'égard, une injustice à l'égard de ce peuple, le peuple de Palestine. Nous avons, à juste titre, de mon point de vue, légitimé l'existence d'un foyer juif pour que les juifs persécutés dans le monde puissent se retrouver, mais nous avons laissé commettre une injustice à l'égard d'un autre peuple qui est sur cette terre, le peuple de Palestine, une injustice qui a été dramatiquement redoublée à partir de 1967.
Avec la guerre des six jours.
La guerre des six jours et le fait que contre toutes les résolutions internationales et des Nations Unies, Israël a gardé des territoires qu'elle occupe, qu'elle contrôle. Et avec le délire qui s'ensuit du grand Israël, parmi ces territoires qu'Israël contrôle, même Gaza est considéré comme un territoire qui est sous son contrôle par l'occupation. Et là, rentre dans la société israélienne ce poison, qui est le poison colonial, le poison qui forcément fait que, c'est tout le thème de mon livre, qu'au cœur de la civilisation prétendue, eh bien, naît la barbarie, naît le crime contre l'humanité, voire le crime génocidaire.
Vous citez, pardonnez-moi, un article écrit par des citoyens et citoyennes israéliennes, publié en 67, il me semble, au moment où, juste après la guerre des six jours, publié dans Haaretz, donc un grand quotidien israélien. Et ces citoyens, citoyennes, israéliens, israéliennes, demandent à leurs autorités de quitter les territoires dits occupés.
Ce texte est formidable. Il a été rappelé fin 2023 par des cinéastes du monde entier, dont une figure du cinéma israélien qui est partie en exil depuis, Avri Mograbi. C'est un texte publié donc en septembre 67 dans Haaretz par des citoyens israéliens qui animaient une petite organisation qui, hélas, n'est plus, qui s'appelait le Matzpen, une organisation internationaliste qui tenait tous les bouts. Ils étaient en Israël et ils voulaient vivre dans ce pays, mais vivre avec les autres. À l'époque, il y avait l'utopie d'un État binational possible. Je rappelle que 20% des citoyens qui ont la nationalité plutôt que la citoyenneté, parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits, la nationalité israélienne sont des Palestiniens, qui sont restés, lesquels qui ont des familles qui ne sont pas parties, qui n'ont pas eu le temps de partir, pourrait-on dire, dans la Nakba, puisque la catastrophe, 70-80% des Palestiniens ont dû fuir. Et donc ce texte est formidable, parce que ce texte dit, à partir du moment où on occupe, on crée une injustice, l'injustice appelle la résistance va appeler de la répression va créer du terrorisme, et à la fin, il y a cette phrase formidable, tout ça va faire de nous, et quand on pense au 7 octobre, des assassins et des assassinés. Des assassins et des assassinés. Et c'est un texte prophétique, poignant, et je l'ai d'autant plus cité que parmi les jeunes qui n'ont pas signé, mais qui accompagnaient cette organisation, il y a un ami qui est muet aujourd'hui, tellement la catastrophe le laisse sans voix, Michel Warchavski, qui est une des figures, avec sa femme, Léa Tsemel, avocate, de ceux qui essayent de tenir des droits sans frontières, voilà, là-bas.
Alors justement, comme vous parlez de Michel Warchavski et de son épouse, après les massacres du 7 octobre, on a assisté, pour le moins, à une polarisation en France, mais pas seulement en France, enfin dans le monde entier. Et au mois de mars, une tribune a été publiée dans Le Monde où les signataires confondaient, à mon sens, une critique du projet sioniste l'associer à de l'antisémitisme. Suite à ça, l'Union juive française pour la paix a publié un texte disant qu'il fallait cesser d'instrumentaliser la critique du projet sioniste au nom de la lutte contre l'antisémitisme. On a vu Jordan Bardella invité, Jordan Bardella, donc le représentant, le président du Rassemblement national, venir en Israël à l'invitation du gouvernement d'extrême droite, de Benjamin Netanyahou. Donc on a l'impression d'un monde à la fois complètement clivé, polarisé et, pardonnez-moi le côté trivial de mon propos, mais qu'on marche sur la tête, en fait.
Bien sûr, il y a dans ce livre, Palestine, notre blessure, il y a des textes qui expliquent comment il faut combattre l'antisémitisme en toute clarté. Il y a un autre texte qui est une lettre ouverte à François Hollande en 2014, qui est celui qui, au fond, en tant que président de la République, a fait cette bascule. Il est d'ailleurs signataire de ce texte que vous citiez dans Le Monde, qui a fait cette bascule rompant avec l'héritage gaulo-mitterrandien, qui essayait de tenir une sorte de point de vue juste tenant tous les bouts sur le conflit israélo-palestinien. Et lui a basculé, et d'autres, et l'ensemble de notre débat public et médiatique, derrière ce qu'ils ont même osé appeler, pour certains, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Tout soutien inconditionnel est un aveuglement. Il n'y a de soutien que critique. Et cela vaut d'ailleurs pour la cause de l'émancipation aussi. On peut soutenir la cause palestinienne et sa justesse historique et ne pas être forcément d'accord avec le Hamas ou avec le type de moyens de guerre utilisés contre des civils lors des massacres du 7 octobre. On peut tenir tous les bouts. Et donc cette assimilation de toute critique de la politique israélienne à de l'antisémitisme est quelque part monstrueuse. C'est une instrumentalisation du poids des morts par rapport à l'indifférence à d'autres morts. C'est une façon de ne pas voir l'humanité. Vous savez, la génération qui est rescapée du génocide, les premières générations, celles des années 50, celles des années 60, de la Shoah, qu'est-ce qu'elle portait ? Elle portait profondément l'idée que d'avoir rescapé te donnait non pas un droit, mais un devoir. Et le devoir d'être au rendez-vous d'autres souffrances. C'est comme ça qu'il y a eu de grandes figures parmi les rescapés ou parmi les orphelins qui se sont retrouvés, par exemple, dans le soutien aux causes coloniales, dans le soutien à l'indépendance algérienne, dans le combat contre la torture quand la France torturait. Et ces gens-là disaient comment la France utilise les méthodes de la Gestapo. Donc on ne peut pas accepter cette bonne conscience tout à fait abominable pour moi, qui au fond, encore une fois, déshumanise. L'origine ne protège de rien. Aucun héritage ne fait de nous des justes. Le fait d'être au rendez-vous de notre humanité se joue chaque jour, se joue au présent. Et parfois doit nous amener à penser contre nous-mêmes, contre les nôtres. Quand ma communauté commet des crimes, je dois aussi être capable de les dénoncer.
Pourquoi vous venez écouter Edoui Plenel, monsieur ?
Écoute, on est dans une personne qui est un peu moins dans le mensonge. On est plutôt, c'est plutôt agréable de savoir.
Qui revienne sur les grandes enquêtes de sa vie, que je conseille à tout le monde.
Pour le thème qu'il aborde dans son dernier livre sur la Palestine, pour avoir son point de vue et un peu plus de clarté par rapport aux infos qu'on entend à la radio.
Moi, je connais Edoui Plenel par Mediapart, et comme je suis une aficionados de Mediapart, moi, j'avais envie de voir celui qu'il a créé, puis l'entendre en direct.
Surtout écouter le dialogue entre Sébastien Rome et Edoui Plenel.
Et vous, madame ?
Même chose, LFI, le groupe LFI local, donc on suit notre ex-député.
D'accord, donc il y a un peu un petit rassemblement de gauche à l'ODEV à l'occasion de la venue d'Edoui Plenel, c'est ça ? Et de son échange.
Ça a demandé aux gens,
oui, aux autres. Oui, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de droite qui viennent l'écouter.